Amen. Amen, alléluia. Oui, c'est vrai, nous sommes encore dans les temps de grâce, temps de bénédiction, et nous savons que si nous nous confions en Jésus-Christ, celui qui a changé les vies et qui change encore les vies, nous pouvons trouver la paix, nous pouvons trouver l'amour, nous pouvons trouver la joie. Combien cherchent la joie chaque jour et ne la trouvent pas, alors qu'on peut la trouver en Jésus-Christ. Encore cet après-midi. Alors, j'ai mis un titre, et ça va peut-être vous surprendre, c'est « La terre a encore tremblé ». La terre a encore tremblé. Je ne sais pas si vous savez, il y a quelques semaines, la terre a encore tremblé. Et on voyait partout écrit « La terre a tremblé », il y a eu un tremblement de terre encore, et ça fait plusieurs fois que la terre tremble. La terre tremble. Alors, quand on pense au tremblement de terre, c'est un phénomène imprévisible. C'est un phénomène, même si on a les moyens modernes maintenant, de pouvoir prévoir un petit peu à l'avance, pas beaucoup, mais un petit peu, c'est un phénomène qui est quand même dangereux. Un phénomène qui peut être même mortel. On voit, on entend souvent, que ce soit à la télé ou dans beaucoup d'endroits, que dans le monde, il y a eu des tremblements de terre. Et ça a détruit des vies, ça a détruit des villages, ça a tout détruit sur son passage. Mais il y a eu un tremblement de terre et plusieurs tremblements de terre qui sont écrits dans la Bible. Vous saviez qu'il y avait des tremblements de terre dans la Bible? Ouais, peut-être vous en connaissez quelques-uns. Et ces tremblements de terre sont un peu spéciaux. C'est pas un phénomène normal, c'est pas un phénomène seulement naturel. On voit que derrière ces tremblements de terre, il y a toujours une circonstance particulière, pour un événement particulier. Alors on va ouvrir la parole de Dieu dans Actes 16. Actes 16 à partir du verset 16. Actes 16, verset 16. On va retrouver deux hommes. On va lire un peu le contexte. Pour comprendre dans quelles circonstances est arrivé ce tremblement de terre. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les battît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le gardien, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le gardien se réveilla et, lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes ici. » Amen. On lira la suite plus tard. On voit déjà dans ce moment qu'il y a deux hommes qui sont croyants, deux hommes qui servent Dieu. Et ces deux hommes vont se retrouver en prison à cause de leur foi, à cause de ce qu'ils ont fait. Tout ça parce qu'ils ont délivré une personne. D'habitude, on va en prison parce que soit on a fait quelque chose de mal, en général c'est quelque chose de mal, soit on a volé, soit on a agressé quelqu'un, on a tué quelqu'un peut-être. Quand on va en prison, ce n'est pas pour rien. Mais ces hommes sont en prison seulement parce qu'ils croient en Jésus, seulement parce qu'ils ont cette espérance que Jésus peut changer et transformer les vies encore. Alors, ils vont dire à cette femme, au nom de Jésus, que ce démon sorte d'elle. Et ce démon sort. Cette personne était comme esclave, comme emprisonnée dans sa vie. Ils vont la délivrer. Et à cause de cela, ils vont se retrouver en prison. Emprisonnés pour leur foi. La première pensée que nous avons quand on parle de tremblement de terre, c'est une catastrophe. C'est un moment difficile. Mais on aurait pu s'attendre que la prison s'effondre. Il est dit que les fondements de la prison se sont ébranlés. On aurait pu s'attendre que la prison s'effondre, que ces hommes meurent. Et on aurait pu dire, un peu comme cet homme, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire, où Paul survit à un naufrage. Et il va mettre de l'herbe voilà, dans le feu. Et là, il y a un serpent qui va le mordre. Et un homme va dire, cet homme doit être un malfaiteur, cet homme doit être un homme mauvais. Parce que Dieu ne lui a pas épargné la vie, malgré qu'il ait passé le naufrage. Et au bout d'un moment, ils vont voir qu'il ne meurt pas. On aurait pu dire la même chose. On aurait pu dire, mais ces hommes déjà qui sont en prison pour rien, pour leur foi, encore un tremblement de terre, encore une épreuve. La prison aurait pu leur tomber dessus. Mais ce n'est pas un tremblement de terre comme tous les autres. C'est un tremblement de terre divin. Un tremblement de terre qui vient de Dieu. Ça peut paraître surprenant. Un tremblement de terre qui vient de Dieu. C'est un tremblement de terre qui va leur donner la libération et non la souffrance. Qui va leur donner la joie et non la tristesse. Les portes se sont ouvertes, les fers sont tombés et ils sont libres. J'aimerais vous dire que Dieu peut faire venir un tremblement de terre dans vos vies, comme il a fait venir dans plusieurs d'entre nous déjà. Un tremblement de terre qui pourrait un peu secouer nos fondements, secouer notre manière de penser, secouer notre vie, notre quotidien. Un tremblement de terre qui peut changer complètement notre cœur. Si seulement tu te confies en lui, si seulement tu t'approches de lui cet après-midi, rien n'est impossible à Dieu. On aurait pu dire ces fers ne peuvent pas être retirés. Cette prison ne peut pas s'ouvrir, mais Dieu l'a fait, parce que rien ne lui est impossible. C'est une promesse pour nous encore. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Si seulement on se confie en lui, si seulement on vient à lui. Voyons maintenant un peu ces hommes. Ces hommes pour qui Dieu a fait trembler la prison et a ouvert les verrous. Le premier homme est Paul. Paul appelé Saul pendant des années. Cet homme était un homme qui avait deux origines, juive et romaine. Et c'était un homme dur, un homme connu pour être violent, un homme connu pour être un homme dur, rigide. Il faisait partie d'une secte très rigide. Il nous est dit de cet homme qu'il respirait la menace et le meurtre. C'est pas farouche quand même, hein? C'est plutôt farouche, je veux dire. Vous imaginez un peu le gars, il respirait la menace et le meurtre. Ce n'était pas un homme qu'on avait envie de s'approcher. On pourrait dire maintenant, on l'appellerait un terroriste de la foi. C'est un homme qui n'avait pas d'hésitation à mettre des gens en prison. Il n'avait pas d'hésitation à blesser, à fouetter les gens. Il n'avait pas d'hésitation à les tuer même. D'ailleurs, la première fois où on voit ce fameux Saul, cet homme, c'est alors que des hommes sont en train de lapider un croyant, alors que des hommes sont en train de lapider un chrétien, cet homme est là et il récolte les vêtements. Il récolte les vêtements pour qu'il puisse mieux le lapider. Vous imaginez un peu l'homme, la dureté de cœur. Cet homme qui était comme emprisonné à l'intérieur, comme emprisonné par sa violence, emprisonné par sa manière de penser. Il était en prison, à l'intérieur de lui-même. Vous savez qu'on peut être emprisonné, même si on est libre, même si on peut aller où on veut. On peut se retrouver comme emprisonné à l'intérieur, emprisonné de pensées, emprisonné de toutes sortes de choses. Et cet homme est emprisonné et il a un désir d'aller mettre en prison encore plus de croyants, être encore plus violent. Alors il part pour Damas, une ville où il y a quelques croyants, hein, dans le désir d'aller persécuter les chrétiens. Et alors qu'il est sur le chemin, alors qu'il marche et qu'il est là avec des hommes autour de lui, une lumière va resplendir. Et à ce moment-là, il tombe à terre et il se demande ce qui se passe. Il est comme un poids qui lui tombe dessus. Et là, il entend une voix. C'est Jésus qui lui parle. C'est la lumière du monde qui lui parle. Une voix qui va transpercer son cœur, qui va être comme un tremblement de terre dans sa vie. Il va rencontrer le Sauveur. Il va rencontrer celui qui change les vies, celui qui va chambouler son quotidien. Lui qui était un homme violent, lui qui était un homme mauvais, il va être un homme qui aime les autres, un homme qui va se tourner vers les autres. On pourrait dire, mais cet homme ne peut pas changer seul, on le connaît, il ne peut pas changer. Même les disciples à un moment vont dire, mais on n'est pas sûr qu'il ait changé, peut-être c'est un piège. Cet homme a changé complètement. Alors que c'était impossible aux yeux des hommes. Parce qu'il a fait cette rencontre avec Jésus, cette rencontre avec ce Sauveur pour lui. Il va devenir prédicateur de l'Évangile, comme vous le savez. Il amènera beaucoup de personnes à la foi. Il va voir plusieurs miracles, plusieurs choses extraordinaires. Il va voir la gloire de Dieu dans sa vie et dans celle des autres. Et on le revoit à son tour. Lui qui a emprisonné des croyants, des chrétiens, on va le voir emprisonné dans cette prison avec Silas, son compagnon de mission. Tournons-nous un peu vers Silas. Silas est un prédicateur de l'Évangile. Il est très peu parlé de lui dans la parole de Dieu. En tout, on entend parler de lui dans 4 chapitres des Actes. C'est pas beaucoup, hein ? Et on le voit que quelques fois dans ces chapitres. Et cet homme est un prédicateur. Il est dit que c'est un prophète de Dieu. Et c'est un homme aussi qui a fait cette rencontre avec ce Sauveur, cette rencontre avec celui qui a changé sa vie. Et un homme qui a fait cette rencontre et qui désire partager avec d'autres ce qu'il a vécu. C'est un homme qui n'hésite pas à bénir ceux qui le rencontrent. Un homme qui n'hésite pas à faire du bien autour de lui. D'ailleurs, après avoir amené un message à l'église de la part de Paul, les différents disciples vont vouloir partir de cette église, vont vouloir partir de ce lieu pour aller ailleurs, et lui, il va vouloir rester. On le voit dans le chapitre 17, il va vouloir rester pour bénir ceux qui sont avec lui. C'est un homme bien, non ? Vous ne trouvez pas que c'est un homme bien ? C'est un homme qui est exhortant, c'est un homme qui bénit les autres, c'est un homme qui fait du bien. Et pourtant, il se retrouve lui aussi, dans cette prison. Il nous est dit de cet homme que, dans Actes 18, verset 5, quand il arriva avec Timothée en Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Un homme qui aimait Dieu, qui aimait Jésus. Tous deux avec une confiance complète en Dieu. Ils vont se retrouver dans une sorte de galère. Ils vont se retrouver dans un moment difficile. Ils vont se retrouver dans une prison. Une prison. Je ne sais pas ce que c'était les prisons à cette époque-là. Ça ne devait pas être flamboyant. Hein. Ça ne devait pas être d'or. Ça devait être plutôt avec les rats ou toutes sortes d'animaux qui devaient être par là. J'imagine qu'ils n'avaient pas des super repas. Ces hommes qui aimaient Dieu se retrouvent là. C'est quand même surprenant. C'est quand même surprenant. Ils se retrouvent dans cette prison. Et on voit Paul et Silas, je ne sais pas si ça vous a surpris quand on l'a lu, mais on voit Paul et Silas, je ne sais pas, on se retrouve dans une prison, parce qu'on a fait le bien. Notre premier réflexe, c'est quoi ? C'est peut-être de pleurer déjà, peut-être d'être triste, mais peut-être aussi d'en vouloir un peu à Dieu. Peut-être de dire, mais je ne comprends pas. Pourquoi tu m'as amené là alors que moi j'ai servi pour toi, alors que j'ai fait le bien ? Comment je me suis retrouvé là ? Comment as-tu permis? Paul et Silas avaient subi l'humiliation, l'emprisonnement. Ils avaient les pieds attachés, le dos lacéré de coups de fouet. Quel est leur réflexe? Quel est leur état d'âme? Ils vont chanter et louer Dieu pendant la nuit. Chanter et louer Dieu pendant la nuit. Quel espoir, quelle confiance, quelle joie qui dépasse l'entendement humain. Comment cela est possible? Dans un moment si difficile, un moment de détresse, chanter, prier, allez, peut-être, ouais. Chanter Dieu, chanter les louanges, chanter des chants sûrement de joie. Des louanges, c'est la louange quand on prend ces chants, c'est des chants de joie, des chants qui parlent des bienfaits de Dieu, des chants qui parlent du bonheur, de tout ce que Dieu peut faire. Ces hommes sont peut-être en prison, mais dans leur cœur, ils sont complètement libres. Ils sont en prison autour d'eux, ils sont en prison dans leur vie terrestre, mais dans leur cœur, ils sont libres. Ils sont totalement dans la joie, totalement dans la confiance. Le résultat à tout ça, c'est qu'il y a eu un tremblement de terre, parce qu'ils ont mis leur confiance en Dieu. Il y a une parole dans la Bible qui nous dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut nous séparer de sa miséricorde, de son amour, de sa bonté, de sa joie, de cette relation avec lui. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu pour nous, encore manifesté en Jésus-Christ. Le résultat, le tremblement de terre, tout va secouer, tout va trembler. Vous avez déjà vécu un tremblement de terre ? Ouais. Ouais. Fort ou... Ouais. Un petit peu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques mois, quand il y a eu un tremblement de terre, moi, je me rappelle, c'était 9h. 9h quelque chose. Et j'étais assis dans mon canapé, et j'étais en train de prier. Et je fais une parenthèse. Hein. J'étais en train de prier, et je disais, Seigneur, bénis cette ville, que vraiment il se passe quelque chose. Vraiment, tu bénis ces moments, tu bénis vraiment que des âmes se donnent à toi, qu'il se passe quelque chose. Et d'un coup, il y a eu un tremblement de terre. Je me dis, waouh, la puissance de Dieu. Et vraiment, vraiment trop fort, vraiment. Et après, j'ai appris que bon, c'était juste un événement naturel, mais et ça surprend, un tremblement de terre. Ça surprend quand tout se met à trembler, quand la maison commence à bouger dans tous les sens. Encore chez nous, c'est des petits tremblements de terre. Mais quand on arrive à des gros, gros tremblements de terre, ça chamboule tout. Ça chamboule vraiment tout. Et il est possible de se retrouver parfois en prison. Il est possible de se retrouver parfois dans un moment difficile et de dire, mais j'ai pas choisi. J'ai pas choisi, moi, de souffrir. J'ai pas choisi, moi, de tomber malade. J'ai pas choisi, moi, que de vivre dans un contexte difficile. J'ai pas choisi de vivre avec des parents dépressifs, avec peut-être un parent alcoolique qui me frappe tous les soirs. J'ai pas choisi de vivre dans la dépression. Alors que j'étais jeune, j'avais peut-être 12, 13 ans, je commençais à sentir comme un malaise dans mon cœur. J'ai commencé à rentrer dans une dépression. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la dépression. Dépression, c'est vraiment un moment difficile. C'est un moment où on se sent mal, mais on ne sait pas pourquoi. On est là, on est comme dans la tristesse, comme dans la détresse, mais on ne sait pas pourquoi. Ça nous tombe dessus. Et je n'ai pas choisi d'être dépressif. Mais tous les jours, quand je me levais, c'est le malheur qui venait dans mon cœur. Tous les jours, quand je me couchais, c'est le malheur qui venait dans mon cœur. Chaque jour, alors que j'avais beaucoup d'amis, alors que le contexte était bien, je n'avais pas l'impression d'être en prison. Mais j'étais comme emprisonné dans mon cœur. Cette peine, cette tristesse, passer des nuits à pleurer, pas savoir pourquoi. La détresse qui envahit nos cœurs, l'angoisse, comme une prison intérieure. Et j'avais beau en parler autour de moi, personne ne comprenait. C'est difficile de comprendre la dépression, comprendre ce mal-être. Personne ne me comprenait, personne ne comprenait le mal qui était en moi, personne ne comprenait pourquoi. On me disait, mais tu as tout, tu as tout. Tu as une famille, tu as des amis, tu as de quoi manger, de quoi te vêtir, tu as une vie correcte. Pourquoi tu es malheureux? Pourquoi? Et alors que j'étais dans un moment difficile, alors que j'étais dans une détresse plus grande que ce que je pouvais contrôler, j'ai crié à Dieu. J'ai crié à Dieu. Et alors que j'étais là dans ma chambre, j'ai crié au Seigneur, mais viens me délivrer, change les vies. Tu vois que je suis à bout, je ne peux plus rien. Viens faire quelque chose. Et à ce moment-là, Jésus s'est révélé à moi. Jésus m'a montré la vie, le bonheur, la joie. Ma vie n'a pas changé. Il y a eu des moments durs aussi après. Mais j'étais plus emprisonné dans mon cœur. J'ai trouvé la liberté. J'ai trouvé la joie. Et quand on n'a pas connu la dépression, on ne réalise pas l'importance de la joie, l'importance du bonheur. Mais quand on en a été privé, c'est souvent quand on perd quelque chose qu'on se rend compte qu'on en a vraiment besoin. Quand on en a été privé, combien c'est bon d'être libre. Il y a des chaînes parfois dans nos vies. On peut être enfermé par un mal-être, par nos pensées. On peut être enfermé par toutes sortes de choses. Et le seul qui peut délivrer les vies, le seul qui peut transformer, c'est Jésus-Christ. Si tu es enfermé dans ton cœur, si tu es dans la détresse, cherche pas à t'en délivrer par des médicaments, à t'en délivrer par toutes sortes de choses. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Il fait des miracles encore. Il agit encore dans les vies. C'est lui qui a fait trembler cette prison, qui a fait tomber les fers, qui a ouvert les portes. C'est lui. Et lui seul. Viens à Jésus. Dans cette prison, il y avait une troisième personne. C'était le gardien. Ce qui est étonnant, c'est que le gardien, lui, a choisi d'être en prison. Il paraissait libre. Parce que lui, il pouvait rentrer, il pouvait sortir. Les autres, non. Mais lui, il pouvait rentrer dans la prison, il pouvait sortir. Donc, il avait une famille. On voit que cet homme avait une famille, il était libre. Il avait un emploi. Et il pouvait aller où il veut, quand il voulait. Un homme libre, un homme bien, qui a une vie normale, une vie bien, on pourrait dire. Mais il va se passer un événement dans sa vie, un tremblement de terre. Alors que cet homme est là et que c'est une journée comme les autres, c'est une soirée comme les autres, il est gardien. Il sait que, de toute façon, ceux qui sont emprisonnés ne peuvent pas sortir. Il sait qu'il y a les liens, il sait qu'il y a la prison qui est bien fermée à clé. Ils ne peuvent pas sortir. Et alors qu'il est là, dans une vie paisible, tranquille, un tremblement de terre va venir. Ce tremblement de terre, c'est ce que Paul et Silas vont vivre. On va le lire, si vous voulez, on va le relire. Au verset 25, acte 16, à partir du verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le gardien se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » On voit que cet homme, alors qu'il a une vie normale, alors qu'il a une vie classique, on pourrait dire, à cause de ce tremblement de terre, tous ses fondements tombent. Tout ce qu'il avait fondé, tout ce qu'il avait construit tombe. Et là, sa seule pensée, sa seule manière de voir, c'est « Je vais m'enlever la vie, je vais m'ôter la vie. » Vous savez, à l'époque, ça rigolait pas, hein. laissé évader autant de prisonniers, c'était passible de la mort. Hein. C'était passible lui-même d'emprisonnement. Cet homme est libre. Et quand il va avoir ce tremblement de terre dans sa vie, il va se retrouver comme emprisonné encore. Tous ces fondements, tout ce qu'il avait pensé, toutes ces prisons qu'il avait bien fermées à clé et que surtout, il ne voulait pas qu'elles s'ouvrent, toutes ces prisons vont s'ouvrir. Tout ce qu'il pensait avoir bien enfermé. Dans nos vies, parfois, on pense avoir bien enfermé quelque chose. Peut-être une expérience douloureuse. Peut-être un événement dans notre vie et on se dit on l'a mis dans un coin. On l'a mis dans un coin, ça risque rien, ça sortira pas. Peut-être un péché. Quelque chose que l'on a fait de mal. Qu'est-ce qui est dans ta prison? Qu'est-ce que tu as voulu enfermer? Et que tu penses que c'est bien enfermé à clé, personne ne peut voir, personne ne peut aller le chercher. Tu te dis, mais de toute façon, c'est là, c'est dans un coin, j'ai tout fait pour que ça ne ressorte plus. Mais Jésus, lui, il veut faire un tremblement de terre dans ta vie. Parce qu'il ne veut pas seulement que tu caches les choses, mais il veut les guérir. Il veut transformer ta situation. Il nous est dit que la parole de Dieu, la Bible, c'est comme un miroir. Un miroir où on peut se regarder. Et quand on lit ce miroir, quand on lit cette parole, elle nous montre et elle révèle ce qui est dans nos cœurs. Elle révèle ce qui est dans nos vies. Viens à Jésus. Viens te regarder dans ce miroir. Viens voir si vraiment ta vie est celle qui est la bonne, sur la bonne voie. Viens voir si ta vie va vers l'éternité, vers le paradis, vers la bonne éternité. Viens voir si ton âme est sauvée grâce à cette parole, celle qu'on partage encore cet après-midi. Paul va crier, ne te fais pas de mal. Cet homme, alors qu'il est dans sa prison, dans la noirceur de sa prison, il va entendre une voix. Il va entendre une voix et si tu entends cette voix cet après-midi, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends la voix de Jésus t'appeler, n'endurcis pas ton cœur. Cet homme va demander de la lumière. Aujourd'hui, tu as besoin de cette lumière dans ton cœur. La lumière du monde, qu'on appelle Jésus. Celui qui est mort pour nous, celui qui a donné sa vie pour nous. D'ailleurs, c'était pendant un tremblement de terre. Je ne sais pas si vous le savez. Pendant un tremblement de terre, dans Matthieu, on va aller peut-être un peu avant pour comprendre bien la grâce. Matthieu 27. Matthieu 27, à partir du verset 45. Jésus est venu sur la terre pour sauver, pour transformer les vies. Et lui aussi va être condamné à tort. Il va être condamné alors qu'il n'a rien fait, seulement parce qu'il a aimé le monde, parce qu'il a aimé, les gens. Il a voulu les sauver, les transformer leur vie. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que, en fait, c'était la condamnation qui était en train de tomber sur Jésus, la condamnation du monde. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé Jérémie. Il a tant aimé Sandrine. On pourrait mettre chacun son nom. Hein. Il nous a tant aimés qu'il a envoyé son fils pour payer la dette à notre place. Et on retrouve Jésus sur la croix, cloué sur une croix, comme un malfaiteur, ayant souffert de coups de fouet, ayant souffert en portant une croix sur un chemin qu'il est en détresse, il va porter cette croix, il va être cloué sur cette croix. Matthieu 27, verset 45. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et voici la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » C'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire « Il appelle Élie ». Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient « Laissons, voyons si Élie viendra le sauver ». Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes, le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus. Ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. » Jésus vient sur la terre, annonce le salut, meurt à notre place. Et là, on voit encore un tremblement de terre. Quand Jésus est sur la croix et qu'il est à la fin et qu'il dit « Tout est accompli !» et qu'il rend l'esprit, un tremblement de terre vient chambouler la vie de ceux qui sont là, vient chambouler cette ville. Et le voile du temple qui représente la séparation d'avec Dieu, est déchiré. Parce qu'il y a eu la croix, parce qu'il y a eu le sacrifice, parce que Jésus a payé la dette et qu'il y a eu ce tremblement de terre, alors il y a eu cette réconciliation avec Dieu. La réconciliation de l'homme avec Dieu. Enfin, on peut s'approcher de lui. Enfin, on peut le prier. Un tremblement de terre. C'est un tremblement de terre qui résonne encore dans nos cœurs. J'aimerais finir juste avec un passage. Matthieu 28, au verset 1er. Jésus est mort. Il a été mis dans un tombeau. Ils ont roulé une pierre devant ce tombeau. Ils ont scellé la pierre. Ils ont mis des gardiens encore devant cette pierre. Et 3 jours après, il nous est dit après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. » Amen. Amen. Encore un tremblement de terre. Cette pierre est roulée. Jésus est vivant. Jésus est mort, mais il est ressuscité. Il est ressuscité. Et ce tremblement de terre dans cette prison fait écho à ce qui s'est passé. Ce tremblement de terre qui a délivré les liens de Paul et Silas, mais surtout qui a délivré le cœur de ce gardien. Ce gardien va voir Paul et Silas et il va tomber à leurs pieds. Il va dire, mais comment être sauvé? Comment être sauvé? Et Paul va lui répondre, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Le seul moyen de pouvoir voir notre prison ébranlée, de pouvoir voir notre prison détruite, le seul moyen de pouvoir être délivré encore aujourd'hui, c'est en Jésus et en Jésus seul. Parce qu'il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Il est la vie pour chacun de nous, encore aujourd'hui. Alors si tu veux la vie, si tu veux trouver la vie en abondance, je t'invite à venir à Jésus encore cet après-midi. Seigneur mon Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci Seigneur, parce que malgré qu'il y ait des prisons dans nos vies, que l'on s'y soit mis volontairement ou involontairement, Seigneur, toi seul peux faire ce tremblement de terre afin qu'on soit délivré, changé, et combien d'entre nous l'ont déjà vécu. Mais Seigneur mon Dieu, je veux te prier peut-être pour mon frère, ma sœur, pour celui qui est là et qui est comme emprisonné par le mal, comme emprisonné par le péché. Seigneur, nous croyons que c'est seulement en venant à toi, en croyant en ce que tu as fait, en ton sacrifice et en t'acceptant dans nos cœurs qu'on peut être délivré. Alors Seigneur, mon Dieu, bénis encore, Seigneur, celui qui est affligé, brisé, celui qui est en prison, parce que toi seul délivres, dans le nom de Jésus.